RCF.
Sébastien Antoni, je rappelle que vous êtes religieux assomptionniste, prêtre et directeur du pèlerinage national de Lourdes qui aura lieu comme chaque année autour du 15 août. Alors ce pèlerinage national, il attire des milliers de personnes. Tout d'abord, un pèlerinage, qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait expliquer la démarche d'un pèlerin, quel que soit d'ailleurs le lieu vers lequel il se dirige?
Je crois que le mot démarche est un mot juste, puisque de fait, il s'agit d'abord dans un pèlerinage de marcher, partir d'un point, normalement depuis chez soi, depuis sa maison, avec ce projet de rejoindre un lieu emblématique, important, d'une apparition, d'un lieu où un saint peut-être a vécu. Voilà. Donc il y a plusieurs types de pèlerinages qui existent. Les plus connus sont bien sûr Rome, la Terre Sainte, Compostelle aussi. Mmh. Historiquement, un pèlerinage se fait à pied. Alors c'est paradoxal, nous on y va
en car ou en train.
Mais par contre, on marche beaucoup une fois qu'on y est. Mais de fait, il y a ces dimensions-là. Mais surtout de partir de chez soi pour vivre autre chose, pour vivre autrement. Peut-être, c'est le début de la foi, un pèlerinage. Si on se réfère à Abraham, qui est le père de la foi, il a commencé finalement son expérience par un pèlerinage avec cet appel de Dieu qui lui dit « va, pars, quitte ». Et c'est ce qui se passe en fait, c'est quitter un quotidien, quitter des habitudes pour découvrir autre chose, se découvrir soi-même, s'emmener avec soi, parce que si on laisse tout de son existence chez soi, dans sa maison, on s'emmène avec soi, avec ses soucis, ses questions, ses joies, ses préoccupations, ses états de santé parfois aussi compliqués, on l'emmène avec soi pour se remettre sous le regard de Dieu. Et partir pour aller à un but, c'est aussi l'expression finalement de notre vie de foi qui consiste finalement à marcher sur ce pèlerinage terrestre, notre vie en fait, vers la cité éternelle, vers Dieu, vers le ciel comme on dit, pour vivre dans la sainteté.
Et quelle que soit la formule qu'on choisit, que l'on marche beaucoup ou très peu, dans quelle mesure est-ce que ça demande une certaine audace, un certain courage d'entreprendre un pèlerinage ?
Ça demande effectivement un certain courage, et notamment pour des personnes peut-être plus fragiles qui ont besoin de sécurité ou de lieux de sécurisation. Pour un plus jeune, la question se pose un peu moins, c'est-à-dire voilà, on voyage beaucoup et encore un peu plus aujourd'hui avec des facilités. Pour des personnes peut-être qui voilà, hésitent, ont peur, ne savent pas trop, il y a besoin effectivement de poser une forme d'acte un peu volontaire et courageux que de quitter ça. Mais symboliquement aussi, dans nos habitudes, dans les choses qui sont bien ancrées dans notre vie, dans nos sécurités que l'on s'est posées, parfois nécessaires, parfois fantasmées, quitter ce que l'on connaît n'est jamais simple, et pourtant ça peut nous faire vivre et revivre que de se dire mais on voit un peu plus large finalement que le petit landerneau dans lequel finalement on évolue. Et le pèlerinage est un petit peu à l'image de tout ça et nécessite du courage, mais ouvre tellement de possibles.
Donc ça suppose une forme de dépouillement, parce que ça suppose de quitter son confort, mais ce dépouillement peut être rempli d'autre chose.
Il est rempli, je crois, vraiment de fraternité à Lourdes. Parce que quand on parle des hospitaliers, de la générosité des brancardiers, de la bienveillance des médecins, de l'amitié des personnes malades, de tous les pèlerins qui sont là avec un sourire, une banane affichée sur le visage, on fait le plein de bonté et de bienveillance. On fait le plein pendant ces 4-5 jours d'une forme de repos de la suractivité que l'on peut avoir, ou des problèmes ou des soucis que l'on peut avoir dans son quotidien, où juste là, on est là avec quelqu'un qui a du temps en face de nous, des hommes, des femmes qui sont autour de nous, qui ont du temps pour juste être gentil, ou pour juste être bon, pour juste passer quelque chose d'une relation humaine apaisée et qui fait tellement de bien. Et c'est ça aussi, en fait, je crois, qui justement nous remplit de cette autre chose. Certes, on quitte des sécurités, mais qu'est-ce qu'on trouve quand même la possibilité de sentir que l'on existe pour d'autres. Et ça, c'est extraordinaire.
Ça peut sembler paradoxal, parce que quand on connaît un peu Lourdes, et notamment en plein mois d'août, on connaît l'effervescence qui s'y vit. Il peut y avoir beaucoup de monde, il peut y avoir un peu d'agitation, les rues sont bondées. Est-ce qu'il y a malgré tout un esprit, un climat d'intériorité, un climat de prière tel qu'on pourrait le trouver dans des lieux moins fréquentés?
Alors, il s'agit pas de s'inventer une vie ou d'être différent quand on est en pèlerinage. Alors de fait, il y a cette dimension, on va pas jouer au pèlerin ou au petit gâteau quand on est à Lourdes, en fait, c'est ça que je veux dire. En revanche, donc il y a une vie qui continue, on s'amuse, on boit un pot, la vie ordinaire.
Il y a plein de bars à Lourdes.
Il y a plein de bars à Lourdes, la vie continue. Mais elle, tout se passe, et enfin pour moi en tout cas, c'est mon expérience, tout se passe avec une vraie joie de retrouver des gens, d'avoir une simplicité de relation les uns avec les autres. On s'assoit à côté de gens qu'on ne connaît pas du tout, des personnes a priori avec qui on n'aurait jamais lié contact dans la vie ordinaire, notamment des personnes handicapées, malades, intergénérations, tout ce qu'on a pu dire, et chacun existe pour l'autre. Oui, il y a un petit brouhaha, c'est vrai, mais en même temps c'est la vie qui circule et on fait partie de cette vie. Tellement de personnes, justement, notamment malades, sont assises et regardent par la fenêtre le monde en se disant « si seulement je pouvais aller prier, si seulement je pouvais aller manger une glace, si seulement je pouvais… » Et là, tout est possible et tout est facilité dans ce sens-là, où des gens se mettent même à votre service pour pouvoir le faire, porter dans une joie presque contagieuse, pour reprendre un terme médical, mais il y a quelque chose d'une bonne contagion.
Alors, si j'étais un peu dans la provocation, je vous dirais, mais finalement, il y a des festivals l'été culturels, de musique, de théâtre, où les gens se retrouvent autour d'une activité, d'une passion, et où peut-être qu'on peut se lier avec des personnes qu'on n'aurait jamais croisées ailleurs. C'est quoi la différence avec Lourdes ?
Et heureusement que ces festivals existent aussi et que d'autres lieux existent aussi. Mais là, à Lourdes, il y a aussi une dimension spirituelle, hein, une dimension de foi qui est vécue et qui est partagée entre générations, entre personnes. Et cette dimension de foi, c'est de nous tourner ensemble sous le regard de Dieu. Un festival, aussi beau soit-il, et j'aime beaucoup ça, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de dépréciation, ça dure un temps et c'est fini. La foi, elle nous conduit toute notre vie, elle se pratique tous les jours, la prière, le lien existe les uns avec les autres. Là, cette année particulièrement, on va insister sur une prière que tout le monde connaît, mais qu'on va vraiment remettre à l'honneur et peut-être se la redonner un petit peu comme la prière des pèlerins du National, qui est la prière de l'Angélus. À midi, alors pendant les 4-5 jours que va durer le pèlerinage sur place du 12 au 16 août, très bien, on va le faire ensemble, mais tous les 361 jours, autres jours de l'année, jusqu'au pèlerinage suivant, ça sera un moyen de communion qui continue. Donc c'est pas simplement le feu d'artifice d'un festival d'été où on est bien ensemble, ça dure et ça se poursuit, ça se prolonge.
Pourquoi l'Angélus ?
L'Angélus, parce que d'abord c'est une prière qui est ancienne, dans le sens où elle est connue des petits, des grands, qu'elle surprend personne, et puis elle est à midi, alors également le matin et le soir, mais à midi, un petit peu pour se donner une heure où tout le monde, en tout cas midi, veut dire quelque chose pour chacun. C'est le moment où a priori on arrête son activité, on va déjeuner, il y a quelque chose du milieu de la journée qui nous pose, où on se retourne ensemble en communion, même si encore une fois, quand on sera retourné chez soi, on ne sera plus avec les autres, mais on sait que les autres le feront aussi au milieu de notre journée. Eh bien, on se retourne vers Dieu, on se retourne vers l'essentiel, voilà. Et tout simplement, et c'est une prière très courte, très facile, et qui dure 5 petites minutes, et qui permet d'être en communion.
Donc ça signifie que pendant ce temps, dans le sanctuaire de Lourdes, tout
s'arrêtera,
va s'arrêter.
Tout s'arrêtera, et on fera passer sur les haut-parleurs du sanctuaire cet Angélus. Alors, le tout nouveau maître de chapelle de Lourdes, qui s'appelle Isaiah Ravelli, qui vient d'arriver, a composé une musique pour justement porter cet Angélus. Donc on l'apprendra en musique aussi, ce qui permet de le vivre aussi de manière un peu plus festive peut-être, et de l'inscrire dans son cœur et dans sa mémoire. L'ensemble des accueils qui accueillent les personnes handicapées, malades, parce qu'elles seront bien évidemment à table à ce moment-là, s'arrêteront aussi, et on priera dans les haut-parleurs de l'ensemble cet Angélus. Donc il y aura une forme de grande communion qui se vivra à ce moment-là.
Alors, puisqu'on parle des raisons qui peuvent pousser à entreprendre ce pèlerinage, que l'on soit valide, que l'on soit malade, et qu'on soit dans une souffrance physique ou morale ou psychique, est-ce que l'objectif, le but du pèlerinage à Lourdes, c'est d'aller à la grotte ?
Alors, la grotte, c'est un petit peu le point rencontre, le point focal, parce que c'est le lieu des apparitions. Marie est venue dans cette grotte. Alors, La grotte de Lourdes est au bas de la ville. Et le Gave, donc la rivière qui traverse la ville, charriait jusque-là toutes les immondices de la ville. C'était le grand égout de la ville. C'est là où le porcher gardait les cochons de la ville. Donc c'est un lieu sale. Puis aujourd'hui, rassurez-vous, aujourd'hui tout a été nettoyé, mais en 1858, au moment des apparitions, c'est le lieu le plus dégoûtant de la ville finalement. Et c'est là que Marie va venir. Elle ne viendra pas dans un lieu noble, elle aurait pu venir dans l'église paroissiale par exemple, ou je ne sais où. Non, elle vient dans le lieu le plus dégoûtant. De là va sourdre une fontaine, et on va découvrir que sous la boue finalement, il peut y avoir de l'eau vive. Et parfois, on peut tout à fait s'identifier même toute sa vie, à ce rocher finalement, où nos vies elles sont faites de ce qu'elles sont, alors pas nécessairement de choses monstrueuses, mais enfin bon, on a tous des casseroles, on traîne tous des choses dont on n'est pas très fier.
Des déchets dont on aimerait bien se débarrasser.
Exactement, et découvrir que ces déchets-là ne font pas peur à Dieu, et au contraire peuvent être une occasion de rencontre avec Dieu. Marie est venue là, donner un mot, une parole de la part de Dieu. Et chacun peut vivre cette expérience-là dans toutes les grottes de sa vie. Alors, il y a la grotte de Lourdes, oui, mais il y a aussi la grotte de sa propre vie. Puis après, quand on y est, on voit un flot quasiment ininterrompu de pèlerins qui rentrent dans la grotte, qui posent la main sur le rocher. Bien sûr, il y a cette image aussi du Christ, le rocher sur lequel fondait sa vie. Et puis moi, ce que j'aime bien voir aussi, c'est très personnel, mais j'aime assez, elle a une forme complètement triturée, cette grotte. On dirait une oreille, et j'aime beaucoup y voir l'oreille de Dieu d'une certaine manière, enfin symboliquement évidemment, mais toutes ces personnes qui rentrent à la queue leu-leu, forcément elles ont des choses à dire à Dieu.
Elle lui chuchote quelque chose à l'oreille.
Elle lui chuchote quelque chose à l'oreille, et j'aime beaucoup ça.
Écoutez, merci beaucoup pour cette image, et à demain.
À demain.